Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile de la chronique Secousse culturelle d'Aya.
6 heures avant minuit.
C'est le moment chronique et nous avons une nouvelle chronique dans 6 heures avant minuit. Ça s'appelle Secousse culturelle. C'est la nouvelle chronique de Aya qui décortique les expositions et les conférences rennaises. À toi, Aya.
Alors, dans le micro, on t'entendra mieux.
Ok. Alors, si vous étiez à Rennes le lundi.
Ah merde.
Vraiment dans le micro.
Ok, là.
Vas-y.
C'est bon là ? Ok. Alors, si vous étiez à Rennes le lundi 20 octobre, vous avez peut-être ressenti un petit frisson sous vos pieds, un petit séisme de 2,6 sous l'échelle de Richter, a été mesuré en Ille-et-Vilaine, au sud-est de la ville. Mais pas de panique, c'est juste un rappel que la Terre, même ici, bouge. Voilà. Donc ce genre d'événement nous ramène directement à notre sujet, la conférence de Pascal Bernard, qui a eu lieu du coup mardi soir au Champ Libre. Donc c'est un sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Pascal Bernard décrypte depuis des années des ruptures sismiques et co-dirige le laboratoire du rift de Corinthe en Grèce et participe aux études de l'observatoire des failles du Nord au Chili. Donc autant vous dire que c'est un expert du sujet. Voilà, donc dans sa conférence, les séismes, une mécanique imprévisible, il nous explique pourquoi malgré toutes nos avancées scientifiques, les séismes restent difficiles à prévoir. Donc il prend des exemples marquants, tels que le séisme d'Haïti en 2010, magnitude 7, avec 240 000 morts. Le Tohoku au Japon en 2011, magnitude 9, qui a provoqué le tsunami, qui a endommagé donc la centrale nucléaire de Fukushima. Et on a aussi un bilan de 30 000 morts. Et on a aussi, pour finir, le séisme d'Izmit en Turquie en 1999. Donc ces catastrophes nous rappellent combien la puissance de la Terre peut être dévastatrice. Donc on peut se demander en fait si on peut faire quelque chose pour limiter ces dégâts.
Mm-hmm.
Bon, pas tant que ça.
Oups.
Mais on peut dire déjà qu'en France, on est un peu à l'abri, mais à nuancer. Les scientifiques comme Pascal Bernard observent ce qu'il y a dans la croûte terrestre, accumulent ainsi aussi des bases de données de plus en plus précises. Et utilise des outils de mobilisation toujours plus performants. Même si cela donc, n'aide pas tant que ça à limiter les dégâts. En résultat, on va essayer de voir quand même le côté positif. On progresse dans la prévision probabiliste des séismes, mais il reste beaucoup d'incertitudes. On peut dire par exemple qu'un séisme est probable le long d'une faille qui n'a pas encore cassé, mais on ne peut pas dire quand cela peut se produire, ni à quelle magnitude. Donc beaucoup d'incertitudes. Il explique aussi le fonctionnement des plaques tectoniques qui imposent des fractures et créent des failles plus ou moins grandes. Donc les petits séismes sont très fréquents, alors que les très grands séismes sont plutôt rares et quand ils arrivent, ils sont destructeurs comme celui de Tohoku. Donc grâce au sismomètre et à l'imagerie satellite, on observe même les micro-glissements des failles. Donc ces crépitements qui annoncent parfois des mouvements plus importants, comme encore une fois donc, le séisme du Japon. Et ça fonctionne. En Grèce, par exemple, le suivi d'une faille a permis d'anticiper un séisme de magnitude 6, même si cela a quand même tourné en catastrophe pour la population. En bref, même si on ne peut pas prédire le futur avec précision, on peut comprendre les signes de la Terre et s'y préparer dans la mesure du possible. Donc pour les plus curieux entre vous, la conférence complète de Pascal Bernard est disponible sur YouTube sur la chaîne de l'Espace des Sciences. Et en profitez-en, l'exposition « Quand la Terre tremble » est ouverte depuis le 23 septembre 2025 et jusqu'au 8 mars 2026 à l'Espace des Sciences au Champ Libre. Donc c'est une occasion parfaite pour toucher du doigt la puissance fascinante de notre planète et de la respecter un peu plus.
Merci pour cette première, Aya. On te retrouve bientôt pour parler d'une prochaine exposition, d'une prochaine conférence sur Rennes.
6 heures avant minuit.
Et c'est l'heure de la chronique ce soir. Aya est de retour pour un nouvel épisode de Secousse culturelle. Bonsoir Aya.
Bonsoir.
On t'écoute.
Alors, dans une période marquée par les guerres, les menaces et les fractions, une question revient sans cesse. Comment l'Europe peut-elle encore tenir ensemble? Comment garder un sens commun? Quant aux frontières du continent, les conflits redessinent les vies et les imaginaires. C'est tout l'enjeu des dialogues européens qui se sont tenus du 19 au 23 novembre au Champ Libre, avant de s'achever ce dimanche. Pendant 5 jours, Rennes a accueilli des débats, des témoignages, des projections, ainsi que des rencontres pour mieux comprendre ce que l'Europe peut faire face aux bouleversements géopolitiques actuels. Donc ces dialogues européens sont un lieu où l'on écoute des voix venues de l'Est ainsi que de l'Ouest, où l'on partage des expériences, où l'on tente de penser ensemble le futur de la démocratie, de la paix, ainsi que de nos liens européens. Parmi les moments les plus marquants, une table ronde a particulièrement retenu l'attention, sortir de la guerre, le monde après. Comment raconter la guerre, comment imaginer la paix quand le conflit est encore en cours? 3 intervenants y ont répondu avec une force singulière. Donc d'abord, on a l'écrivain Vélibor Kolik, la politologue Anne Luero et la réalisatrice Juliette Korn, sous la modération de Romain Huet, enseignant-chercheur à Rennes 2 en sciences de communication et cofondateur du podcast Craquer l'époque. Donc d'abord, Vélibor Kolik a ouvert la rencontre en revenant sur sa propre histoire. Il est né en Bosnie et il était enrôlé en 1992 dans l'armée. Il déserte quelques mois plus tard et s'exile en France. Il perd tout dans la guerre de Bosnie-Herzégovine, y compris son frère. Donc dans son livre publié il y a moins d'un an, « Guerre et pluie », il évoque des blessures qui ne disparaîtront jamais. Pour lui, la guerre est abstraite, presque irréelle. Et il se décrit comme déguisé en soldat et son témoignage, il rappelle la fragilité humaine face au conflit. Puis on a Anne Luero. Elle a proposé un éclairage essentiel sur la Russie, mais surtout sur la société russe face à la guerre. Donc elle parle de sombres temps où l'opposition est risquée. Elle donne aussi l'exemple d'un adolescent de 15 ans qui a été emprisonné pour avoir critiqué le régime russe comme étant pas démocratique. Il a été dénoncé par ses camarades de classe. Et beaucoup de Russes aussi détournent les yeux car la guerre ne se déroule pas sur leur sol. Et du coup, elle parle de sociétés consentantes à la guerre. Quand en Ukraine, en revanche, on vit chaque jour avec le traumatisme et certains pensent déjà aussi au retour des vétérans. Enfin, Juliette Korn, qui se rend régulièrement en Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine du 24 février 2022. Pour aider en tant que bénévole, elle a partagé un témoignage sensible. Elle filme surtout la nuit ou les après-midi, ces moments où la vie continue malgré tout. Elle décrit aussi une société incroyablement organisée malgré le chaos, où les civils soutiennent les militaires. Et quand elle parle de paix, beaucoup d'Ukrainiens sourient tristement ou rigolent, car pour eux, la guerre, elle va durer une décennie, voire plus. Pourtant, ils préparent déjà le monde d'après, avec des centres de réhabilitation ou un accompagnement des victimes, que ce soit psychologique ou autre. Donc ce qui ressort de cette rencontre, c'est que la guerre dépasse largement les champs de bataille. Elle marque les corps, les sociétés, les mémoires. Et c'est précisément pour cela que des espaces comme les dialogues européens sont nécessaires pour comprendre ensemble, pour mettre des mots et peut-être pour commencer à imaginer la paix.
Merci beaucoup Aya. J'en profite pour vous rappeler que le 18 novembre dernier, dans 6h avant minuit, on recevait Vincent Pérez, directeur adjoint des Champs Libres, et Romain Huet, dont tu as parlé, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2 et essayiste, pour parler de ces dialogues européens. Donc pour réécouter leur interview, rendez-vous sur la page de 6h avant minuit sur c-lab.fr.
Sauvage.
Quelle heure est-il?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.